Donc ce matin, on continue notre parcours dans Galates. On est dans Galates 3, chapitre 3, le verset 1, que nous allons lire. Il nous est dit, « Ô Galates insensés, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié. » Prions. Seigneur, nous te demandons encore, Seigneur Dieu, de venir parmi nous, Seigneur, ce matin, Seigneur, de venir nous instruire, Seigneur, par ta parole, et on te prie, Dieu Tout-Puissant, de bénir tout ce qui va être dit, Seigneur, et merci de nous accorder la grâce de ton esprit, Seigneur, pour bien interpréter ta parole et bien la mettre en pratique dans nos vies, Seigneur, afin que nous puissions te servir avec honneur et avec gloire dans le nom de Jésus. Amen. Si je vous demande de me dire quel est le commandement le plus fréquent qui est trouvé dans la Bible, que diriez-vous? Quelqu'un pourrait dire « ne commets pas d'adultère » ou « ne commets pas de vol »,« ne mens pas », un des 10 commandements. Quelqu'un pourrait répondre et dire aussi « ne pas avoir d'autre Dieu devant ma face », un autre « aimez-vous les uns les autres ». C'est certainement des commandements qui sont répétés souvent dans le Nouveau Testament. Mais le commandement qui est le plus fréquent dans nos Bibles, c'est « ne crains pas ». C'est facile d'avoir peur, de se laisser intimider par la peur. Il y a des situations, des circonstances que nous avons, que nous faisons chaque jour, sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle. Le licenciement au travail, l'économie, les hauts et les bas de la bourse, les choses qui arrivent à la maison, les enfants qui sont malades, l'auto qui ne démarre pas, la fournaise qui fait des siennes. Et toutes ces choses peuvent déclencher le mécanisme de la peur, une émotion de crainte. Il y a aussi des circonstances dans nos églises qui peuvent faire en sorte que nous sommes dans la crainte. Vous pouvez lire les 2 ou 3 premiers chapitres de l'Apocalypse et ne pas, dans un sens, devenir craintif. Si ces choses peuvent arriver à ces églises, elles peuvent arriver à cette église. La fausse doctrine, quelqu'un peut tomber en scandale de péché, un des dirigeants, un diacre, un pasteur. Et qu'en est-il de celui-ci? La peur de l'apostasie. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, lorsque les gens tournent le dos à Dieu et abandonnent la foi, cela peut arriver, et cela arrivait dans les églises de la Galatie. Nous pouvons en être certains que lorsque Paul a entendu les nouvelles de ce qui transpirait, il a expérimenté quelques craintes. Il n'était pas étranger à la crainte. Il pouvait écrire dans 2 Corinthiens 7, le verset 5, « Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'a pas eu le moindre repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. » Il pouvait dire à ces mêmes Corinthiens, dans 1 Corinthiens 2, verset 3, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Il peut être plutôt effrayant lorsque vous voyez des gens que vous aimez qui semblent être très prêts à tourner leur dos à l'Évangile de Jésus-Christ. Comme il a été mentionné, ces églises, il y en avait plus qu'une en Galatie, qui étaient en grand danger de cela, de faire naufrage de leur foi. Qu'est-ce qui pourrait être pire? Le docteur John MacArthur dit ceci dans son commentaire, « Rien n'est plus tragique ou décevant que de voir un chrétien qui abandonne la pureté de l'Évangile pour un christianisme déformé, qui offre prétendument plus que l'œuvre achevée de Christ. Pourtant, c'est ce que beaucoup de croyants des églises de Galatie sont en train de faire ou risquent de faire à cause des judaïsants. En tant qu'amants des âmes de la vérité de Christ, de l'Évangile, l'apôtre Paul refuse de reculer et de voir aller les Galates en déclin spirituel. C'est pourquoi il écrit aux Galates dans le chapitre 1, le verset 6. Vous y remarquerez quelque chose du stress émotionnel de la situation et comment cela a un impact dans son âme lorsqu'il leur écrit ces mots. Donc, chapitre 1, verset 6. Je m'étonne où je suis, ou entre guillemets, je suis abasourdi, je suis peiné, je suis choqué que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. En résumé, pour nous familiariser avec le contexte, en nous déplaçant du chapitre 1, 2 et 3, où nous trouvons un changement de ton particulièrement au chapitre 3, les deux premiers chapitres plutôt de Galates sont intensivement personnels et historiques. Paul nous raconte son histoire le concernant. Et pourquoi fait-il cela? Eh bien, ces gens qui avaient infiltré les églises en Galatie l'ont traité comme sans valeur, lui ont donné mauvaise presse. Ils l'ont appelé un apôtre de second rang. Ainsi, par une série d'arguments, Paul établira l'authenticité et l'intégrité de son propre appel et de sa commission par Christ lui-même. Il va continuer de démontrer qu'il est sur la même longueur d'onde que les autres apôtres et qu'il a été appelé de manière unique pour apporter l'Évangile aux gentils, aux païens. Et remarquez ce qu'il dit au chapitre 2, le verset 9. « Et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, qui est Pierre, et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi en signe de communion. Ainsi nous irions, nous, vers les païens et eux, vers les circoncis. » Ainsi, nous avons Paul donnant la main à au moins deux des autres apôtres. C'était la main droite de communion qui nous est dit, leur laissant savoir et laissant savoir aux Galates qu'il était sur la même longueur d'onde avec eux et qu'ils étaient d'un même cœur et d'un même esprit lorsqu'ils en venaient à ce qui constitue l'Évangile et où cet Évangile irait et à qui il irait et qui l'apporterait. Paul l'apporterait aux gentils. Ceci est le chapitre 1 et 2 en un mot. Largement une autobiographie dans les détails. Nous apprenons concernant Paul comment il est devenu chrétien et comment il est devenu apôtre. C'est ce que nous apprenons dans les chapitres 1 et 2. Ce matin, nous allons tourner notre attention au chapitre 3. C'est ici où Paul fait une transition, comme s'il changeait de trac, vers une section qui est plus dense, qui est plus doctrinale. Ceci a été appelé la pièce centrale de toute l'Épître. Ainsi, les deux premiers chapitres sont en quelque sorte d'introduction. C'est pour introduire à ce qui va être dit. Le thème général de Galates, c'est l'Évangile. Nous pourrions dire, dans le chapitre 1 et 2, il explique comment il a reçu cet Évangile et pourquoi il prêche cet Évangile. Et la dernière partie du chapitre 2, il nous dit ce qui constitue l'Évangile. Mais lorsque nous entrons dans le chapitre 3, il va vraiment défendre l'Évangile ou soutenir l'Évangile de Jésus-Christ. Cet évangile a été miné par ces faux judaïsants, ces gens qui se sont introduits parmi les Galates, troublant ces églises. Donc, le chapitre 3 va entrer dans une section qui est plus doctrinale. Mais avant que nous entrions dans quelques détails de doctrine, Paul va encore exprimer son souci dès le départ. Il va exprimer son profond souci envers les Galates ici, dans le verset 1 que nous avons lu d'entrée de jeu. Et il exprime son souci dans ce verset, le verset 1 du chapitre 3, sous trois rapports. Donc, trois positions. La forte exhortation, la persuasion ou séduction malsaine, malfaisante, et la troisième, c'est la contradiction grossière ou exagérée. Donc, nous allons ouvrir le verset 1 sous ces trois aspects. Donc, premier aspect, c'est la forte exhortation. Dès que nous abordons le chapitre 3, c'est comme si un barrage se brise, une digue se brise. Il y a un flot de questions. Donc, il y a cinq questions au total qui sont posées dans le chapitre 3, commençant au verset 1 et se poursuivant jusqu'au verset 5. Cinq questions rhétoriques. Qu'est-ce que c'est qu'une question rhétorique? C'est une déclaration donnée sous forme d'une question. Et la personne qui pose la question connaît la réponse. Mais la raison pourquoi il pose la question, c'est qu'il veut que les gens à qui il pose la question commencent à penser, commencent à réfléchir. Donc, les questions théoriques sont plus pour ceux qui entendent que pour ceux qui parlent, que pour ceux qui posent la question. Parce que celui qui pose la question, il connaît déjà la réponse ici. Donc, au moyen de cinq questions, Paul mettra la pression sur les Galates. Il va les amener, à long terme, à penser à la lumière de ces cinq questions. Nous pourrions dire, à ce moment-ci, qu'il agit plutôt comme un avocat de la poursuite ou un avocat de la défense. Eux autres, ils aiment poser des questions. Si vous avez déjà été dans une cour ou si vous avez déjà été témoin dans une cour et vous avez remarqué ou vous avez déjà été à la barre des témoins, c'est peut-être peu probable, c'est ce qui arrive. Donc, l'avocat de la défense pose des questions et il pose des questions et il n'arrête pas de poser des questions. Paul a les Galates à la barre des témoins, comme on pourrait dire, et il va faire feu de cinq questions aiguisées pertinentes. Et dès le début, vous remarquerez qu'il nous laisse savoir que ce n'est pas seulement une sorte d'approche professionnelle de pensée. Il ressent les choses profondément. C'est un homme qui est passionné. Et il commence cet examen croisé, pouvons-nous dire, avec une parcelle émotive, une question sensible. Et dans le premier mot de cette question, il y a une seule lettre en grec, et c'est la même chose en français, c'est « O », la lettre « O ». La seule fois que ce « O », le « O », « O » qui est « O » Galate, la lettre avant « Galate, O, est la seule fois que ce O est utilisé par Paul lorsqu'il écrit ses lettres. C'est un O de ce que cela m'a donné un choc de consternation, un O de douleur, de peine, de chagrin, d'indignation, d'exagération. Alors, vous comprenez le sens du mot O, c'est ce que cela veut dire. Quand il dit O, Galate insensé. Ce n'est pas qu'il aborde ceci d'une manière froide, intellectuelle. Remarquez ce qu'il continue à dire. Il poursuit ce haut avec des mots qui sont quand même durs. Une forte exhortation, en fait. verset 1. Ô Galates insensés! Et ce n'est pas la manière que vous appelez habituellement vos amis, n'est-ce pas? Paul est une personne franche et directe. Il dit, en quelque sorte, ce qu'il pense. On n'en trouve pas beaucoup de nos jours. Paul nous dit les choses comme elles sont. Nous ne devrions pas penser, frères et sœurs, qu'à ce point-ci, Paul a perdu le contrôle. Il n'a pas perdu les pédales. Il permet à ses émotions d'en tirer le meilleur. Non, c'est un homme qui a compris une expérience de la grâce de Dieu à un niveau très profond. Il était un homme en maîtrise de soi. Mais nous devons comprendre qu'il parle ici avec une émotion profonde, une passion profonde. Il y a un ensemble d'émotions qui, sans doute, remplissaient son cœur et son esprit. Crainte, colère, douleur, peine, chagrin, comme les termes qu'on a mentionnés un peu avant aussi. Nous devons mettre ces mots dans le contexte de toute l'Épître. Nous ne devons pas oublier, au chapitre 1, le verset 2, alors qu'il s'adresse à eux en tant que frères, c'est ce qu'il dit. Et si nous tournons au chapitre 4, au verset 19, il les appelle « mes enfants ». Ses enfants. Ainsi, il ne les appelle pas seulement insensés. Il les a appelés ses frères et ses enfants. Nous devons aussi comprendre que c'est le même homme qui a écrit Galates 6, 1, où il nous est dit « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Mais nous ne voyons pas de douceur ici. Il n'y a pas beaucoup de douceur dans le premier début de ce questionnement. Eh bien, Galates 6, 1, que nous venons de lire, est un principe qui est appliqué dans la plupart des cas, mais il y a des exceptions, n'est-ce pas? Parce qu'il pouvait écrire aussi à Tite dans 1.13, Tite 1.13. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Donc, il les réprimande avec sévérité. Ainsi, il y a un temps et une situation pour une réprimande sévère. Et c'est ce que vous avez ici dans Galates 3. Une réprimande, un reproche sévère, une forte exhortation. Mais pour avoir une meilleure compréhension de ce qu'il signifie ici, lorsqu'il dit « Ô Galates insensés », et pour apprécier le mot « insensé », ce n'est pas comme nous comprenons typiquement le mot « insensé ». Plusieurs des commentateurs font référence à une paraphrase dont il est rendu ainsi. « Ô toi, cher imbécile !» C'est la paraphrase que ça veut dire. Le mot grec ne s'applique pas à l'esprit, à la pensée. Ne pas utiliser votre sens commun, votre état de désinvolture, d'insensé. Il ne jette pas de discrédit sur la capacité mentale. Cela ne fait pas référence à leur quotient intellectuel. Donc, il n'affecte pas la capacité mentale des Galates, ni leur quotient intellectuel lorsqu'il dit ça. Le problème ici n'est pas au fait d'avoir un manque de courage, mais c'est un problème de perception spirituelle. Un problème de perception spirituelle. On va voir plus clair au mesure qu'on avance. C'est intéressant que Jésus, ici, utilise le même mot dans Luc 24, 25. Dans le contexte de son approche avec les disciples d'Emmaüs. Vous vous rappelez, les disciples d'Emmaüs qui étaient déconcertés, là, ils s'en allaient de Jérusalem, puis ils étaient tout déboussolés parce que Puis là, il y a un individu qui arrive, puis qui s'est joint à eux, puis que là, il continue de parler, puis il voyait que la personne avec qui venait de joindre avec eux autres, qu'ils ne comprenaient pas, tu sais, ce qui se passait, puis que eux autres, ils parlaient, puis ils disaient, voyons, ne sais-tu pas ce qui s'est passé à Jérusalem durant ces trois derniers jours? Alors, le Seigneur finit par... Puis c'est là qu'il dit ça, « homme sans intelligence ». Dans la version Darby, il dit « oh, gens sans intelligence ». Et dans la version en anglais, c'est encore plus frappant. Je vais juste leur lire, je vais prendre le temps d'aller le voir, dans Luc 24, Luc 24, 25, ça dit, « Then he said unto them, ensuite il leur dit, « Oh, fools and slow of heart. » En voulant dire, c'est, en anglais, on dirait que c'est « Oh, fou ». C'est un peu, tu sais, on dirait que c'est plus percutant en anglais. Donc, ces hommes qui n'utilisaient pas leur puissance mentale et ce que nous pourrions appeler le raisonnement logique de la foi. La foi a l'habilité de raisonner, de penser, de réfléchir clairement. La foi n'est pas stupide. La foi pose des questions. La foi, comme le dit John Newton, prend la vérité et l'amène à une conclusion logique. La foi fait que quelqu'un marche dans la lumière, non pas dans les ténèbres. Si nous ne marchons pas par la foi, nous faisons les choses avec précipitation. Nous pouvons agir de façon très insensée. Nous pouvons faire des choses stupides, n'est-ce pas? Nous ne pensons pas. Et les Galates ont agi précipitamment. Ils n'ont pas réfléchi concernant la vérité au lieu, ils ont suivi leurs impulsions. Ils auraient dû savoir mieux. Il leur a été dit et ils ont entendu l'Évangile. Vous voyez, si les Galates n'avaient entendu seulement l'Évangile une seule fois seulement, peut-être par des personnes quelconques, Paul ne les aurait pas réprimandés ici aussi sévèrement. Un peu comme un père qui dit à son enfant de ne pas traverser la rue. Et l'enfant marmonne quelque peu, bougonne quelque peu, et la semaine suivante, l'enfant traverse la rue. Eh bien, le père sera doux dans sa réprimande. Et s'il continue à le faire jusqu'à plusieurs fois à traverser la rue, et si le père prend l'enfant et le regarde entre les yeux et dit « Tu ne traverses pas la rue » et l'enfant continue à le faire, eh bien, j'imagine qu'il va avoir une réprimande différemment. Elle va être différente et certainement qu'elle va être un peu plus musclée, un peu plus sévère. Donc, une forte réprimande est dans l'ordre des choses. Et c'est vrai ici. Les Galates ont entendu la vérité plusieurs fois. Ils l'ont entendu prêcher par l'apôtre Paul lui-même. Ils ont entendu l'exposition de la doctrine de la justification par la foi seule. Ils ont entendu prêcher Jésus-Christ crucifié. Mais en dépit de tout ce qu'ils ont entendu, ces Galates ont été ensorcelés par un faux évangile, un évangile des œuvres, un évangile qui avait la posture du légaliste. Un évangile qui disait que ce que Jésus a fait sur la croix n'était pas suffisant. L'œuvre de Christ a besoin de l'œuvre de l'homme pour être efficace. Insensé, imbécile, vous n'avez pas agi dans le principe de l'intelligence de la foi. Ce n'est pas le temps pour une exhortation légère, mais une exhortation musclée, forte. Ô Galates insensés, Donc, c'est la forte exhortation. Notre deuxième point, la persuasion ou séduction malfaisante, malsaine. Nous en venons maintenant à la première question rhétorique du verset 3. Donc, la question est ceci. Qui vous a fasciné, vous? Un autre verbe ici qui est portant, qui porte, qui vous a fasciné. En grec, c'est le mot « baskanos ». Et c'est la seule fois qu'il est utilisé ici dans le Nouveau Testament. Ce qui fait que c'est un peu plus difficile lorsque vous essayez de le traduire ou essayez d'avoir une bonne idée de ce que le mot signifie. Vous ne pouvez pas faire de chasse croisée comme on fait habituellement avec d'autres textes bibliques pour en faire une étude, une exégèse. Vous devez vous en remettre aux érudits, aux scholars, comme on dit en anglais, et aux références grecques de ce temps. Cependant, la plupart des commentateurs sont d'accord avec la signification de base ici. Littéralement, cela signifie de donner à quelqu'un un mauvais œil, un regard hostile. Mais si nous regardons attentivement ici, il y a quelque chose d'autre qui sort à la surface. Un élément sinistre. Et le mot porte aussi l'idée de blesser, de faire du mal à quelqu'un par la sorcellerie. Et Paul utilise ici le mot « qui » au singulier. Donc, lorsqu'il pose la question « qui vous a fasciné? » Donc, le « qui » est singulier. Donc, les judaïsans, ils étaient plusieurs, donc les judaïsans, c'est pluriel. Donc, le « qui » singulier... À qui fait-il référence ici? Qui, selon toute vraisemblance, fait référence au diable? Il fait référence à cet élément sinistre qui est Satan. Et la Bible nous donne un bon profil de Satan. Nous apprenons par 1 Pierre 5:8, sous la figure de « comme un lion rugissant ». Dans Apocalypse 12, sous la figure d'un serpent. Dans Matthieu 13, 4, Jésus, dans la parabole du semeur, mentionne comme les oiseaux du ciel la mangèrent la semence. Dans ces trois cas, le mot utilisé dans les trois versets pour diable, c'est le même mot qui veut dire dévorer. Donc les trois mots utilisés veulent dire le mot dévorer. Ce mot parle de la puissance du diable pour détruire. Le diable est impitoyable, cruel, sans pitié. Mais il est aussi trompeur. Jésus décrivant le diable dans Jean 8, 44 comme un meurtrier et un menteur. Mais comment est-il meurtrier? Il est meurtrier par ses mensonges. Il enseigne le mensonge concernant Dieu, Christ, son évangile. Il dit des mensonges concernant ses serviteurs. Et c'est ce qui arrivait dans les églises de la Galatie. Beaucoup de mensonges étaient répandus au sujet de Paul et l'évangile qu'il prêchait. Le diable profère le mensonge. Nous n'avons qu'à retourner dans Genèse 3, tout début. Et vous voyez le diable dans son premier projet pilote, Ève. Et c'est tout un défi pour lui, une femme parfaite dans un environnement parfait qui était bénie merveilleusement par un Dieu parfait. Et il est capable de la décevoir, de la tromper. La Bible nous dit qu'elle a été trompée. Paul nous dit que le diable est très bon dans ce qu'il fait. Et il dit qu'il peut se transformer lui-même en ange de lumière, comme s'il s'habillait en policier. En réalité, il est un terroriste. Il peut venir à nous comme un ami, mais en réalité, il est notre pire ennemi. Il est astucieux, trompeur. Et pour cette raison, Paul ne perd pas de vue le diable et dans toutes ses épîtres, il fait référence à Satan d'une manière ou d'une autre. Il parle de ses pièges, de sa violence, de ses dards enflammés. La Bible nous apprend que le diable est le grand promoteur, le grand publiciste de la fausse religion. Et il est derrière le faux évangile des judaïsants dans les églises de la Galatie. Qui vous a fasciné, vous? La question pourrait être posée ainsi. Pourquoi avez-vous permis au diable de vous piéger et de vous tromper, de vous duper? Donc, nous avons la forte exhortation aux Galates insensés, la persuasion malsaine. Qui vous a fasciné, vous? Et notre troisième point, la contradiction grossière. Paul fait monter la pression sur les Galates. Alors qu'il précise les œuvres insidieuses du diable derrière la scène, en catimini, il ne se laissera pas, il ne laissera pas les Galates, plutôt, jouer le jeu du blâme. Et comment vous jouez ce jeu? C'est le diable qui m'a fait faire cela. Sans aucun doute, le diable était derrière la scène. Le diable est derrière les chutes, les péchés graves, affligeants commis par les vrais croyants. Mais Dieu nous a donné la grâce et la puissance pour résister au diable. Il nous est commandé de résister au diable. Il nous est donné toute l'armure de Dieu pour se tenir contre le diable dans Éphésiens 6. Ainsi, en fin de compte, les Galates n'avaient qu'eux à blâmer. Et Paul prend un autre marteau ici et cogne un autre clou sur leur responsabilité et leur culpabilité, soulignant leur folie pour tourner leur dos au vrai évangile de Jésus-Christ. Et il leur remémore l'enseignement auquel ils ont été exposés. Il nous donne un regard en arrière de son évangélisation personnelle, de ce que c'est lui qui a évangélisé personnellement les Galates. Il leur rappelle ce qu'ils ont entendu lorsqu'ils étaient parmi eux. Et il le décrit de manière tout à fait frappante au verset 1. « Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? » Je vais lire la traduction en anglais dans la King James. Ça éclaire encore plus le... Ça dit « Oh, oh, foolish Galatian, who hath bewitched you, that you should not obey the truth. » Je voulais emmener la version... une autre version en français, là, ça disait « Qui vous a fasciné, vous, du fait que vous n'obéissez pas à la vérité? » Donc, le mot-clé ici est « dépeint ». Dans le grec, ce mot veut dire c'est prographo. Prographo. Qui donne le sens, ça a le sens d'écriture, de graphique, de symbole. Calvin et Luther l'ont décrit ainsi. Paul a peinturé ou dépeint Christ devant eux. Est-ce que Paul avait un pinceau? Certainement pas. Avait-il une présentation PowerPoint? Non plus. Il a dépeint Christ et sa croix avec ses mots, avec sa prédication. Christ a été placé devant eux, devant leurs yeux, non pas leurs yeux physiques, mais les yeux de leur âme. Paul ne craignait pas de prendre avantage de cette faculté d'imagination donnée par Dieu. Il a dépeint Christ, le mot grec « prographo », clairement proclamé ou exposé. C'est le mot qui a été utilisé en ce temps pour décrire ce que quelqu'un ferait pour confondre quelque chose sur la place publique ou sur la place du marché. Et un exemple frappant, vous avez Luther. Vous vous rappelez Luther? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prographo, il a placardé ses 95 thèses pour que tout le monde les voie. À la fin, tout le monde savait ce que pensait Luther et il l'a fait savoir. Et Jésus-Christ, vous voyez, a été prographo, placardé devant les Galates pour que chacun voie. Cela peut être illustré ainsi. Alors que vous roulez sur l'autoroute, qu'est-ce que vous voyez lorsque vous allez, mettons, à Montréal ou à Toronto sur l'autoroute? D'immenses panneaux publicitaires, d'immenses panneaux d'affichage. C'est assez difficile de les manquer. Vous les voyez très clairement. Ainsi, Paul leur dit, « J'ai placardé, j'ai affiché Christ crucifié. » Vous l'avez vu. Et certainement que Paul n'a pas épargné la laideur détaillée de la gloire de la crucifixion. Il leur a détaillé les soldats romains clouant Christ sur le bois. Certainement aussi un cliché panoramique de ceux qui se tenaient au pied de la croix, raillant et se moquant de Christ. Paul ne s'est pas arrêté seulement aux blessures sanglantes, parce qu'il comprenait que la croix n'était pas seulement une dure épreuve physique, mais que c'était une dure épreuve spirituelle. C'était une épreuve d'abandon de Dieu. Il était là, mourant à la place des pécheurs. C'était une mort de substitution. Il leur aurait dit distinctement, explicitement, graphiquement, en quoi consistait cette dette. Il leur aurait dit, dans les concepts théologiques, le sacrifice de la réconciliation, de la propitiation, de la rédemption. Il les aurait amenés dans l'Ancien Testament et démontré la progression de la révélation, ce que nous appelons la théologie biblique dans l'aspect de la forme de la semence. Vous avez les deux formes de semence, la semence du diable, la semence de Jésus, de la femme qui est Jésus, qui est étalée tout le long de l'Ancien Testament. Et certainement aussi qu'il les a certainement rafraîchis à la mémoire de Isaïe 53, dans tous les aspects de la sacrificature, du tabernacle, de l'agneau, et leur faire voir Christ. Certainement qu'il ne s'est certainement pas gêné de tout leur démontrer cela. Il leur a placardé cela devant eux. Il aurait expliqué pourquoi Christ est plus grand que Moïse et que tout autre prophète, plus grand que Salomon, David, tout autre roi, plus grand que tout sacrificateur, prêtre, il est le grand « Je suis ». Certainement que Paul leur a expliqué cela. Vous voyez, c'est ce que Paul a fait. Il a placardé Christ crucifié. C'est ce que le verset nous dit. Il y a un ancien hymne noir, un hymne négro, probablement du temps de l'esclavage américain, dont le titre est ceci. Ça dit, je l'ai en anglais, « Were you there when they crucified my Lord? » Si vous avez la chance d'aller sur Internet, vous tapez ça, et il y a plusieurs versions. Là. C'était vraiment un beau chant qui est vraiment... important. Et ça démontre certainement en français, étiez-vous là? lorsqu'ils ont crucifié mon Seigneur. Oh, quelquefois, cela fait en sorte que je tremble. Étiez-vous là lorsqu'ils l'ont cloué sur le bois? Et là encore, vous avez la même « Oh, quelquefois, cela fait en sorte que je tremble. » Étiez-vous là lorsqu'ils l'ont mis au tombeau? Et encore là, vous avez le même refrain. Alors, ça démontre vraiment toute la crucifixion. Donc, les Galates auraient pu dire oui. Étiez-vous là quand ils ont crucifié mon Seigneur? Les Galates auraient pu dire oui, non pas physiquement, ils n'étaient pas là physiquement, littéralement. Mais nous étions là parce que Paul nous a amenés là par le moyen de la grâce que nous appelons la prédication. Il leur a enseigné, il leur a prêché, il l'a proclamé Christ crucifié. Oui, nous l'avons vu. Il nous a donné une vision de Christ. Oui, nous l'avons vu marchant sur l'eau, touchant les lépreux, tous ces grands miracles qu'il a faits. Mais ce qui était tellement captivant, si élevé, émouvant, et lorsqu'il a placardé Christ crucifié. C'est ce qui fait que la prédication est la prédication. C'est la vieille, vieille histoire. Oui, nous étions là. Vous, nous étions là. Nous l'avons vu affiché, placardé devant nos yeux. Et ils ont compris pourquoi c'est Christ et Christ seul. Et pourquoi c'est un évangile par grâce seul. Et pourquoi c'est par la foi et par la foi seul. Ils ont compris que vous n'apportez rien dans vos mains, vous attachant simplement à la croix, n'apportant rien sinon votre état, votre condition de pécheur. Ils ont compris que personne n'est sauvé que par la croix de Christ crucifié. William Hendrickson, dans son commentaire, dit ceci. Un évangile qui est supplémentaire, un Christ auquel on ajoute quelque chose, est un évangile qui évince Christ. C'est ce que les judaïsants voulaient que les Galates fassent. Ajouter à Christ des suppléments à l'œuvre de Christ par le rituel de la circoncision, un élément humain ajouté à l'Évangile, une toute petite cellule d'ADN humaine, et vous avez un autre Évangile. Vous ajoutez une empreinte humaine à l'Évangile comme base, comme fondement de votre justification. Vous n'avez plus le vrai Évangile. C'est un évangile des œuvres. Christ plus les œuvres. Et ce n'est pas l'évangile. Le faux évangile des judaïsants était une grossière contradiction de ce qu'ils avaient entendu et de ce qu'ils avaient vu, de ce qui avait été dépeint devant eux. Ainsi, nous avons vu Galates 3, verset 1, la forte exhortation, la persuasion malsaine et la grossière contradiction. Donc, pour conclusion, trois applications. La première, nous voyons la grande volubilité. Qu'est-ce que la grande volubilité? C'est d'abondantes paroles, des paroles dites avec rapidité, une facilité de langage, tout ce qui est facile dans la proclamation de quelque chose. C'est ça que la grande voix, quand on dit que quelqu'un est volubile, ça veut dire qu'il y a beaucoup de flots de paroles pour dire les choses. Donc, nous voyons la grande volubilité lorsque viennent les sujets concernant l'âme et la vérité et concernant la vie et la mort. Une grande volubilité d'être piégé, de croire un mensonge. Paul n'a jamais écrit à ses Galates en tant que de faux convertis. Il ne pensait pas que c'était des faux convertis. Mais il les rend responsables à la lumière de leur compréhension de l'Évangile. Il les responsabilise. Ils croient que leur âme est en grand péril parce qu'ils flirtent avec un autre Évangile. Ô Galates insensés! Et ce qui fait que c'est si tragique est le fait que cela est arrivé si vite, qu'il nous dit. Ce qui nous rappelle de notre grande vulnérabilité propre. Quelqu'un a comparé le christianisme et l'Évangile de Jésus-Christ à une fleur, une belle fleur. Les fleurs sont très délicates. Elles peuvent être facilement écrasées et détruites. La fleur du vrai Évangile de Christ est très délicate et fragile. Et cela ne prend pas beaucoup pour la déformer et la pervertir. L'auteur et pasteur presbytérien Ted Donnelly, celui qui a écrit le livre Heaven and Hell ou Hell and Heaven, concernant la justification par les œuvres, il dit « La mentalité de la justification par les œuvres est insidieuse. Elle peut pénétrer dans les cœurs les meilleurs du peuple de Dieu. Personne d'entre nous en sommes immunisés. » Nous pouvons nous appuyer sur notre orthodoxie, notre distinction de réformés. Vous pouvez même vous appuyer sur la prédication de l'Évangile. Nous pouvons même être orgueilleux dans notre prédication. Le fait que nous enseignons le salut par grâce seul et tourner notre rejet des œuvres « Je suis un homme de grâce, je crois en les doctrines de la grâce. » Oh oui, mais est-ce que vous l'ajoutez comme base, comme fondement? Est-ce que vous en faites un point d'orgueil? Le fait de proclamer que nous croyons aux doctrines de la grâce, est-ce que nous en faisons un point d'orgueil? Ça peut être un élément de... Martin Luther a dit cela. J'ai moi-même enseigné cette doctrine pendant 20 ans dans ma prédication, dans mes écrits. Et le vieux et tenace « moi », entre guillemets, était rivé à moi, ainsi je me suis retrouvé voulant venir à Dieu en apportant quelque chose dans mes mains, afin qu'il m'accorderait sa grâce. Je ne pouvais atteindre et me jeter sur la pure grâce seule. Et encore il dit, ceci est hautement nécessaire. Le fait de se jeter sur la pure grâce seule. Nous sommes vulnérables. Nous sommes toujours vulnérables à un évangile de Christ plus. Si nous faisons une vérification éclair sur l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'Église, et on l'a vu avec l'enseignement que Marcel nous fait sur l'histoire de l'Église depuis plusieurs mois, nous verrions la situation de Galates ressortir encore et encore. Les séminaires, les dénominations, tout ajoute quelque chose à Christ et son Évangile. Deuxième application, il nous est rappelé de notre grand ennemi lorsqu'arrive la vérité de l'Évangile. Oui, Paul va inculper les Galates. Ô Galates insensés! Il va aussi mentionner ici le diable, mais il ne va pas mentionner le diable pour excuser ou permettre aux Galates, de quelque façon que ce soit, de circonvenir de leur responsabilité et de leur culpabilité. Qui vous a fasciné, vous? Ils ont entretenu le diable dans l'ignorance. Satan arrive à l'improviste. Il ne vient pas à nous en fanfare, avec sa fanfare, avec son orchestre. Et s'annonçant, « Je suis le serpent, je suis le lion, écoutez mon rugissement. » Il vient à nous d'une manière beaucoup plus subtile, n'est-ce pas, insidieuse. C'est sa façon la plus normale. Il peut même venir à nous utilisant le nom de Jésus. Les Galates étaient exposés à un faux évangile qui ne disait pas que Jésus ne sauvait pas. Ce n'est pas ce que les judaïsants disaient. Ils ne niaient pas que Christ était mort, qu'il était ressuscité des morts. Ils ne disaient pas cela. C'était une situation à double volet, comme les tenants et les aboutissants, comme on dit. Un in and out évangile, faux évangile. Voici où est le poignard qui tue. Oui, Jésus-Christ est le sauveur, mais il n'est pas un sauveur tout suffisant, tout efficace. Il a besoin d'aide. Son œuvre plus nos œuvres, une sorte de synergisme qu'ils favorisaient, qu'ils avançaient. Jésus a le crédit et nous aussi. C'est ce que les judaïsants disaient. Donc, ils jouaient en quelque sorte sur deux tableaux. Vous voyez combien cela est insidieux. Certainement qu'il y avait parmi eux, qui avaient de grandes personnalités, de grands charismes, qui avaient certainement beaucoup de talents élogieux pour beaucoup de volubilité. Peut-être même plus charismatique que Paul. Le diable utilise souvent des gens très sophistiqués, charismatiques, des gens qui peuvent parler de la Bible. Et ça, vous avez juste à aller sur Internet et vous allez en voir à profusion. Luther disait, vrai lorsqu'il disait, « Sa puissance et ses ruses n'ont pas d'égal. » Les judaïsants utilisaient leur Bible. Ils faisaient l'étalage du nom de Jésus. Mais derrière, cette pensée biblique était celle du malin. Nous pouvons être trompés, dupés, n'est-ce pas, par le diable. C'est pourquoi Paul pouvait écrire aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 2:11, « Car nous n'ignorons pas ses desseins. » Donc, Paul nous amène à vraiment saisir notre adversaire, ne pas sous-estimer notre adversaire. Il est trompeur, il se déguise en ange de lumière. Il est un peu comme un avion furtif qui peut voler sous les radars. Ça vole tellement bas qu'il vole sous les radars, alors tu ne peux pas le détecter. Mais nous ne devons jamais oublier, il est un lion cherchant qui dévorer. Il nous est donc rappelé de notre vulnérabilité, de notre ennemi. Et troisièmement, pour terminer sur une note positive, le grand remède pour réclamer, restaurer ceux qui se sont égarés ou sont en danger de faire naufrage dans leur foi, quel est ce grand remède? Comment aidez-vous les gens comme les Galates? Comment les ramenez-vous sur les rails? Quelquefois, vous devez les confronter. Ô vous insensés! Ô vous Galates insensés! Vous devez les avertir, les mettre en garde. Ils doivent être rappelés de leur responsabilité et de leur culpabilité personnelle. Ce n'est pas la faute d'un autre. Tu ne mets pas le blâme sur un autre. Vous ne pouvez pas les laisser se cacher et s'excuser eux-mêmes pour le gâchis, pour le mess dans lequel ils sont. Vous ne pouvez pas les laisser se défiler de leur responsabilité. Comme celui qui est pris en faute d'adultère. Il utilise le plaidoyer d'Adam. La femme que tu m'as donnée, c'est la faute de l'autre. La femme, c'est le serpent. Vous ne pouvez pas vous cacher du fait que vous avez un mauvais mariage. Et c'est pourquoi vous commettez l'adultère. Vous ne pouvez pas blâmer votre femme, peu importe vos circonstances exténuantes, vos difficultés. Vous avez commis un péché. Vous êtes à blâmer. vous avez agi en insensé. Ainsi, vous avez à confronter. Et c'est ce que Paul fait ici. Ô Galates insensés. Il les met devant le fait. Mais ce n'est pas tout ce qu'il fait. S'il n'avait fait que cela, il ne serait jamais revenu. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a placardé, il a étalé Christ, il a dépeint Christ devant eux. Vous saisissez? Lisez Galates. Qu'est-ce qu'il fait dans l'Épître aux Galates? Dans presque tous les chapitres, il met devant nous un étalage, une pancarte, des panneaux d'affichage, des panneaux publicitaires. Commençons par l'autoroute numéro 1, Galates 1, 4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais. Il placarde Christ. Dans Galates 2, 15, 17, il ouvre toute la doctrine de la justification. Au verset 20, il nous dit, « Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a donné et qui s'est lui-même livré pour moi. Prographo, placardé, publicisé. Nous en retrouvons aussi dans Galates 3, dans Galates 4, dans Galates 5 et la grande autoroute de Galates 6, verset 14. Nous y voyons ce placard. Quant à moi, certes non, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Vous voyez ce qu'il a fait? Rien de nouveau. Tu vois, Paul, les Galates vont s'en aller. Tu dois faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui va avoir du punch. Tu dois arriver avec des nouveautés. Quelque chose de noble, quelque chose de puissant, quelque chose qui va vraiment sonner à leurs oreilles. Ce n'est pas ce que Paul fait. Il prêche la vieille, vieille histoire. Il placarde Christ. Votre problème, Galates, est que vous devez lever vos yeux vers Christ. Dans un de ses sermons, Spurgeon dit ceci. Si vous voulez être saisi en pleine face, la première chose est d'avoir le bon sujet centré sur vos cœurs. Bien-aimés, fixez cela sur votre âme, que le sujet principal de votre méditation devrait toujours être Jésus-Christ. Il doit être l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. La religion qui fait de nos propres agissements et nos propres feelings est un mensonge. Notre religion, dit-il, doit avoir Christ pour la base, Christ comme fondement, Christ comme la pierre d'angle. Et on voit l'importance de la pierre d'angle lorsque on bâtit une maison. Et on doit avoir aussi Christ comme la pierre de fête. La pierre de fête, c'est la pierre du toit. C'est une pierre importante aussi. Si nous ne sommes pas basés et assis et fondés sur lui, notre religion est vaine. Demandons-nous pourquoi tellement de gens sont trompés de nos jours. Ils n'entendent pas Christ et Christ crucifié. A-t-il été prographo devant vous? A-t-il été dépeint? A-t-il été placardé devant vous? Affiché devant vous? S'il ne l'a pas été, vous êtes vulnérable au diable et aux faux évangiles de notre temps. Vous ne serez pas trompé par le diable ou par un faux évangile si vous gardez Jésus-Christ près de votre âme. Êtes-vous devenu un de ses disciples? Si le sang expiatoire de Christ est à l'œuvre entièrement dans votre âme, avez-vous vu Christ? L'avez-vous vu? Il a été placardé devant vous ce matin, Aucune excuse si vous finissez par être trompé par le diable. Vous l'avez vu. La réponse est « Croyez en lui et vivez pour lui. » Amen. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole, Seigneur, qui est vivante, Seigneur Dieu. Merci de nous l'avoir donnée, Seigneur. Merci de nous donner les lumières nécessaires pour tout saisir, Seigneur, et de le mettre en pratique, en application dans notre vie, Seigneur, afin que nous puissions te servir avec vigueur, Seigneur, avec énergie, Seigneur, avec ardeur, dans le nom de Jésus. Amen.